Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet.
Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Vous travaillez sur l'Antiquité, c'est très intéressant, mais à quoi ça sert ? Combien de fois historiennes et historiens entendent cela ? En effet, il semble de prime abord qu'étudier des témoignages vieux de 2000 ans ne change rien à notre monde. Eh bien c'est faux, répond mon invité d'aujourd'hui. Travailler sur un personnage de l'Antiquité, ça change une vie, et en particulier ça change la sienne. Car elle travaille sur ce qu'on pourrait appeler familièrement un drôle de type. Et ce drôle de type, c'est Tertullien. Bonsoir Stéphanie Binder.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'université de Bar-Ilan en Israël et vous avez fait un drôle de livre, vous aussi, sur un drôle de type, Tertullien et moi. Alors avant de nous expliquer qui est Tertullien, expliquez-nous ce que ce livre est. C'est un livre assez spécial parce que d'habitude quand on est une chercheuse comme vous, on est tout à fait détaché, on n'ose pas dire je. Et là vous prenez la plume pour dire je, moi et Tertullien.
En effet, on est soi-disant détaché, on essaye d'être détaché autant que faire se peut. Mais ce que ce livre vient montrer, c'est qu'en réalité, on n'est pas détaché de soi-même. Oui. On peut éviter le jeu, on peut éviter le nous, mais on est complètement impliqué dans notre sujet de recherche et on ne cherche pas, on ne fait pas de recherche sur un sujet particulier si on n'a pas une motivation interne importante. Et cette motivation vient de ce que l'on est, de notre environnement, de nos expériences. Et justement, c'est ce que je fais dans ce livre, de revenir sur mes expériences, sur ma formation, et de me demander ce qui m'a mené à m'intéresser à ce sujet, et pourquoi de la façon dont je le fais, et pourquoi les réponses que j'apporte sont celles qu'elles sont, et est-ce qu'elles sont vraiment objectives ?
Alors justement, on va avant que vous nous disiez comment vous êtes arrivé à Tertullien, je voudrais que vous nous expliquiez qui est Tertullien. Alors si possible de manière un peu détachée justement. Et si vous êtes ici dans cette émission Église d'aujourd'hui, c'est parce que Tertullien, traditionnellement, on l'appelle un père de l'Église. Alors c'est un drôle de père hein, quand même.
Alors traditionnellement à moitié. Oui. Donc on l'appelle père de l'Église, mais il n'est pas vraiment père, il n'a jamais été canonisé. Oui. Il a été mis un peu de côté par l'Église, bien que récemment on l'ait réhabilité, plus ou moins. Mmh. Donc on ne sait pas exactement quel était son rôle dans l'Église de Carthage.
Oui, parce qu'il est carthaginois.
Il est carthaginois,
Donc c'est à côté de Tunis. Hein, pour
C'est Tunis d'aujourd'hui. Il vit à Carthage au 3e siècle de notre ère, et il s'engage à mener les chrétiens sur la voie qui est la bonne voie et la bonne façon de vivre pour des chrétiens. Mmh. Donc il écrit des guides qui leur expliquent de quelle façon se comporter, parce qu'on est à un moment où le christianisme a besoin de se définir et que les choses ne sont pas forcément très claires. Donc il établit des règles qui font qu'un chrétien est un chrétien, enfin comme les autres pères de l'Église d'ailleurs, oui. Mais à un moment charnière où il doit expliquer à ses fidèles, enfin qui sont les gens qui le suivent, parce qu'on ne sait pas s'il a un rôle officiel, mais il endosse le rôle de guide, oui. Il doit expliquer à ceux qui le suivent comment se différencier finalement de leurs voisins idolâtres.
Et il rentre dans les détails, c'est ça qui est à la fois est très très intéressant, mais un peu gênant, parce que justement, les détails qu'il donne, quelquefois, en tout cas, c'est très en décalage avec notre modernité.
Il rentre dans les détails, ce qui est intéressant, parce qu'il a vraiment besoin d'expliquer comment se comporter au quotidien, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il évite aussi certains sujets.
Oui.
S'il se rend compte qu'il va pas être suivi sur certains points, il évite de les aborder complètement. Mmh. Et bon, et il essaye aussi de s'adapter à son public. S'il sent que, qu'en étant trop intransigeant, il risque de perdre des fidèles, alors il va réadapter son approche afin de garder tout le monde autour de lui.
C'est qui ? C'est un homme de communication, en fait ?
C'est un rhéteur. C'est un rhéteur qui sait parfaitement bien s'adapter à son public, parfaitement bien adapter les exemples qu'il emploie, les références qu'il apporte. Aussi, qui sait parfaitement bien quelle langue parler, parce qu'il a commencé en grec, il a vu que c'était pas tout à fait ce qui convenait à son public, il est passé au latin, et le latin a vraiment perduré, les textes en grec ont disparu, les textes latins sont parvenus jusqu'à nous. Et donc oui, il sait très très bien ce qu'il fait.
Est-ce que vous pouvez, alors vous n'allez pas nous donner la liste des œuvres complètes de Tertullien, mais de quoi il parle ? Quels sont les grands thèmes ? Pour donner un peu une idée aux auditeurs.
Il parle de tout ce qui a trait à la vie quotidienne. Il s'attaque aux hérétiques. Il a toute une série de traités contre chaque sorte de courant hérétique qu'il rencontre. Et il a des traités de réflexion sur la religion, sur le christianisme et surtout comment adapter ce christianisme, comment le vivre pratiquement. Au quotidien.
On y reviendra dans une autre émission, mais la fin de la vie de Tertullien est un peu, c'est pour ce que vous avez dit, il n'est pas souvent considéré comme parmi les pères de l'Église, rangé parmi les pères de l'Église, parce que, catastrophe, à la fin de sa vie, il vire dans l'hérésie, il sombre dans l'hérésie.
Alors, d'après moi et d'après le consensus aujourd'hui, à part quelques chercheurs qui continuent à persister à dire que oui, qu'il tombe dans l'hérésie, aujourd'hui on ne considère plus que Tertullien est hérétique. Il a été attiré par des formulations, par des idées qui se trouvaient dans le montanisme, qui résonnaient avec finalement ce qu'il pensait lui-même. Ce ne sont pas des choses qu'il a découvertes tout d'un coup, mais des choses qu'il pensait déjà par lui-même, et il a trouvé leur expression la plus parfaite dans le montanisme.
Alors d'un mot, qu'est-ce que le montanisme ? Alors,
le montanisme est un courant qui est né en Asie mineure, qui a été fondé
la Turquie actuelle.
Qui a été fondé par Montan ou Montanus et ses prêtresses, et qui était un mouvement très exalté, qui s'attendait d'une minute à l'autre à voir la Jérusalem céleste descendre sur terre. Et donc, ils étaient vraiment à vivre leur christianisme dans l'instant. Et tandis que le reste, les autres, enfin le courant central du christianisme, était plutôt en voie d'adaptation, en se disant « bon, le Christ ne revient pas, donc il faut s'adapter, il faut établir des règles pour savoir comment vivre notre christianisme là, maintenant, sur Terre ». Et donc, il y a eu une dissension entre ce courant central et ce mouvement qui n'était pas un mouvement dissident, qui, à une certaine période, était complètement accepté par le courant central. Mais finalement, avec les années, plus tard, une fois que Tertullien était déjà décédé, le montanisme est devenu et a été considéré comme une hérésie. Ses approches étaient trop problématiques pour le courant central et il a donc été mis à l'écart. Sachant que Tertullien avait des affinités avec ce montanisme, les descendants, les successeurs ont préféré l'éviter en disant il a des approches qui nous rappellent le montanisme, qui est problématique, donc n'en parlons pas, ne l'étudions pas, ne continuons pas sa route, puisque ce serait trop difficile de justifier ces approches trop proches du montanisme.
Mais en même temps, il a quand même été recopié. C'est-à-dire que...
Il a quand même eu des disciples. Il a quand même eu des disciples, ses textes. Donc, comme j'ai dit, les textes en grec ont complètement disparu, mais les textes latins ont été copiés, transmis, on a presque pas de problème sur les manuscrits. Donc oui, il a quand même perduré.
Est-ce qu'on sait comment quelle est la fin de sa vie, ou est-ce que vraiment on ne sait ni d'où il vient, ni ce qu'il a fait, ni qui il était, et on ne sait même pas comment il est mort?
On ne sait pas comment il est mort. Ce qu'on sait, c'est qu'il a quand même vécu à une période de persécution du christianisme, que le martyr à ses yeux était quelque chose de tout à fait désirable, mais qu'il y a échappé. Et ça n'était pas quelqu'un qui se cachait. Il écrit, il s'adresse vraiment à tout le monde. Il s'adresse en interne aux chrétiens, mais il s'adresse aussi aux romains pour essayer de les convaincre, d'une part, de se convertir, d'autre part, de ne pas persécuter les chrétiens. Il s'adresse aux juifs. Donc tout le monde sait ce qu'il fait. Il n'est pas caché, il n'est pas en retraite, il est à Carthage, une ville cosmopolite, et il écrit des traités qui s'adressent à tout le monde. Donc on ne sait pas comment il a échappé à toutes ces persécutions, on ne sait rien. Donc on ne sait pas non plus très bien d'où il vient, mais on reconstitue sa vie d'après ces traités.
Eh bien donc voilà, vous nous avez parlé de Tertullien, Stéphanie Binder, et bien maintenant vous nous parlerez de vous, enfin je dis maintenant, mais ça sera la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet rmc.fr.